Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction. Avec aujourd'hui, à mes côtés, Johnny One.
Bonjour.
Voilà, ça va Johnny, toujours en classe?
Et toujours.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre, vous voyez, Johnny One
Non.
continue
Pour toute sa
d'étudier.
vie.
Exactement, et d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses quand on joue à Returnal, mais ce sera un autre débat. Thomas est avec moi aussi.
Eh oui, j'allais suggérer qu'il sextuple son CP, mais en fait, je ne sais plus trop, donc je ne vais rien dire. Bonjour, mon cher Plume, je suis ravi de te revoir avec un teint évidemment si allé.
Attends, s'y aller. Alors oui, effectivement, j'étais en vacances. Mais par contre, c'était pas ça la météo en Corrèze et d'ailleurs dans toute la France. Mais bref, on est ravis de vous retrouver. Évidemment, vous l'avez remarqué, la semaine dernière, on ne pouvait pas être présent. Et on a eu pas mal, pour ne pas dire beaucoup, de problèmes ces derniers temps. Évidemment, on a une pensée pour toutes les personnes qui rencontrent ces problèmes. Et on va pouvoir donc commencer ce podcast pré-E3, parce que mine de rien, ça commence dans pas très longtemps, tous ensemble. L'E3, justement, eh bien, c'est un peu un mini E3 qui nous a frappé la semaine dernière. C'est le thème numéro un de ce podcast, puisqu'on a eu un paquet de présentations qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui ont toutes délivré quelque chose en termes d'annonces. Alors, il y a Dragon Quest, il y a l'Unreal Engine 5, il y a Sonic, il y a Dying Light 2, il y a Horizon Forbidden West et Far Cry 6. Tout cela était présent la semaine dernière. On va évidemment décortiquer toutes les annonces et vidéos qui nous ont été présentées. Le deuxième thème, lui, est consacré aux tests qui sont parus ces derniers jours. Et les tests les plus impactants, allons dire
Oula.
ça, ce sont ceux, eh bien, de Biomutant, qui n'est pas encore arrivé au moment où nous enregistrons, mais qui ne va pas tarder, et de Wonder Boy Asha in Monster World, qui, lui, est bien arrivé et pas forcément comme on le souhaitait. On terminera avec des impressions, celle de Thomas, qui nous parlera eh bien, de son dernier aperçu de Final Fantasy VII Remake Intergrade, dans lequel il a pu eh bien, voir un peu plus Yuffie, donc dans l'épisode qui lui est consacré,
Tout à
qui sera
fait.
un DLC qui arrivera plus tard. Mais avant ça, comme chaque semaine, vous le savez, nous avons le win et le fail. Et le win, Thomas, il y a visiblement que toi. Que ça intéresse, mais bon, voilà, on t'a laissé cette opportunité, on t'a laissé cette tribune parce que Time Splitters est bientôt de retour.
Enfin, et je m'insurge contre les commentaires que j'ai pu lire jusque dans les documents internes pour préparer cette émission. Johnny, honte sur toi. Effectivement, ça fait presque 10 ans qu'on attend, que les gens bien, en tout cas les gens de bon goût, attendent, espèrent le retour de la licence Time Splitters. Et après tout un tas de fausses pistes, de rumeurs, de on travaille dessus, du on verra bien, là, ça y est, c'est officiel. La série revient sur le devant de la scène pour de vrai, avec en plus une partie des cofondateurs du studio Free Radical qui seront une nouvelle fois aux manettes. On sait déjà que Ellis et Doc rempliront pour ce nouvel épisode de Time Splitters qui a été annoncé par Deep Silver, donc la filiale de Core Media qui avait racheté notamment les licences de Free Radical il y a quelques années. Et bien du coup, maintenant, on sait qu'on peut espérer retrouver cette licence du FPS, alors, qui, pour rappel, s'inspirait très largement de la structure de GoldenEye et Perfect Dark en son temps, puisque c'était d'anciens de chez Rare qui avaient fondé le studio Free Radical, qui avait aussi fait Second Sight, que certains se rappellent peut-être, qui était un jeu très intéressant aussi. Et bah là,
Et
du coup...
Haze surtout. Haze, cette
Oui,
grosse merde de
et...
Haze, qui est le jeu qui les a enterrés, Crytek, enfin, anciennement Crytek UK, Free Radical.
Qui était devenu effectivement Crytek UK entre-temps, avant de bah, péricliter, comme tu l'as dit.
Non,
Age...
ils sont morts, voilà. Haze, ça les a, mais complètement défoncés, tout simplement.
Voilà, mais
Parce que
donc là, du
c'était
coup,
pourri.
on espère évidemment que ça va être le haut du panier, que ça va être l'écume de la bonne époque qui va revenir pour ce fat comeback qu'on est quand même, mine de rien, nombreux à espérer et à attendre, en tout cas sur Gameblog, hein, vous-même, vous le savez, cher lecteur. Et alors, évidemment, pas de date, pas de plateforme, rien du tout, même pas de lettre d'intention, etc. Juste une annonce, mais une annonce qui fait plaisir, puisque voilà, maintenant, on a espéré pendant à peu près 10 ans. On sait qu'on peut maintenant espérer un opus qui ne s'appelle évidemment pas encore Time Splitters 4, mais qui, on l'espère, reprendra évidemment tout ce qui a fait le succès de cette trilogie, quoi qu'en dise ce cher Johnny One.
Très bien, bon bah écoute,
Bah,
c'est ton win, c'est ton choix, pas de problème.
pour
Moi
me
j'en profite, c'est...
justifier,
Alors ok, vas-y Johnny, je te laisse faire.
pour me justifier à ma place, ce jeu, donc ce Time Splitters, je l'ai bien aimé en fait, en vrai. Mais moi, je voulais un Perfect Dark. Je voulais pas un Time Splitters.
Ah oui, mais il revient à Perfect Dark.
Ouf. Il y aura Perfect Dark aussi. Par contre, No One Lives Forever, pour l'instant, pas de nouvelles. Hein. Ah, c'est moi, c'est plutôt celui-là que j'attends, si jamais un jour quelque chose doit se refaire. Mais bref, on va passer au fail maintenant, Johnny One. Un fail du côté de la PS5, c'est pas fréquent.
Ah non. Et pourtant, un jeu qui a été offert aux abonnés PS Plus, donc il devrait y avoir plein de gens en train d'y jouer, vu que le jeu a été prêté aux abonnés PS Plus, c'est Destruction All-Stars. Donc, on se dit, tous les gens qui ont une PS5, ils ont eu Destruction All-Stars gratuit avec leur machine. Du coup, le mode multijoueur, on est d'accord qu'il devrait être rempli. Non, pas du tout. Il manque de joueurs, en fait. Du coup, les développeurs du jeu, ils ont fait une petite annonce, donc c'est Velen Studio. Et ils nous disent qu'ils ont des pics de joueurs entre 14h et entre 16h et 22h la semaine et entre 14h et 1h le week-end, mais que malheureusement, en dehors de ces pics, il n'y a pas assez de joueurs et les parties ne se remplissent pas. Du coup, ils vont prendre le taureau par les cornes, ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont programmer des bots qui vont venir se joindre au matchmaking quand il n'y aura pas assez de joueurs en ligne. Tristesse. Voilà. Donc, vous allez pouvoir jouer toutes vos parties, mais ce sera peut-être pas forcément avec des gens. Si jamais vous êtes amateur de Destruction All-Star, dans ce cas-là, je ne sais pas trop quoi vous dire, condoléances peut-être. Voilà.
C'est assez mal barré parce que le jeu est disponible depuis quelques petits mois seulement et on voit qu'il y a déjà un déficit de joueurs, donc ça n'inaugure rien de très bon pour la suite. On va pas se mentir.
Absolument pas.
C'est quand t'as des exclus PS5 du calibre de Demon's Souls, de Returnal, et que tu peux avoir accès à tous les jeux PS4, au passage, certains que tu peux refaire dans des conditions absolument idéales. Je veux dire, même quand tu veux jouer à Call of Duty, à Fortnite, t'as des versions qui sont encore améliorées sur PS5. Et je pense même aussi à Rocket League, parce que c'est quand même un jeu qui mélange course et action, ce Destruction All-Stars. Je veux dire, qu'est-ce qui, même si certaines critiques ou certains joueurs peuvent estimer qu'il est bon, ça n'a pas trop été notre cas chez nous, on a estimé qu'il était satisfaisant, cette dopamine qui avait fait le test. Je veux dire, qu'est-ce qui peut motiver un joueur gratuit ou à 20€ à se lancer dans ce jeu plus que dans d'autres? C'est ça qui est compliqué, c'est que tu peux pas, les jeux, encore une fois, l'univers du jeu multi en ligne est assez impitoyable, et pour un jeu comme celui-ci qui est arrivé pas forcément très fini au début en termes de contenu, il le paye assez rapidement, et du coup oui, effectivement, à moins que plus tard il ait un regain d'intérêt grâce à des mises à jour, à du contenu qui est ajouté, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire un bon démarrage et une belle année 2021 pour lui pour l'instant.
C'est une blague, hein, mais pourquoi pas une version free-to-play?
Oui, le free-to-play peut être une option aussi, hein, tout simplement. Après, il l'était pendant 2 mois, s'il n'a toujours pas suffisamment de joueurs.
Exactement.
Toujours, puisque une fois que tu l'as eu sur PlayStation Plus et que tu restes abonné PlayStation Plus, le jeu est toujours dans ta ludothèque. Donc bon, c'est très compliqué et voilà, ça ne se résout pas aussi facilement que ça, des problèmes. Je ne suis pas sûr que les bots, ça soit suffisant, malheureusement, pour lui sauver la face, comme on dit.
Au moins, tu pourras boucler tes parties.
C'est vrai.
C'est déjà une bonne chose.
Ou alors peut-être que tu auras envie de jouer à d'autres jeux, comme Knockout City ou Bomberman Air Online, qui lui est gratuit pour le coup et qui donne plus envie que ça. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Bref, merci pour le win and fail, les gars. On va passer maintenant au thème numéro 1. Et je vous le disais en préambule, le thème numéro 1. C'est une sorte de mini-E3 qui s'est déclenchée la semaine dernière. On n'a pas vraiment tout bien encaissé encore. On est encore un peu groggy de tout ce qui s'est passé. Mais on va essayer de faire un point rapide justement sur les différents live streams, les différentes démonstrations qui ont été faites. On va commencer tout ça avec Dragon Quest, celui qui a commencé le plus tôt, hein, 5h30 du matin, jeudi dernier. Et Dragon Quest, donc il y a eu de l'annonce. Et là, Thomas, je me tourne vers toi parce que c'est toi le gros fan de Dragon Quest. C'est toi qui aimes la mélodie insupportable. Je ne sais plus comment s'appelle ce thème global que j'ai un mal de chien à toi.
C'est la fanfare d'ouverture de Koichi, oui. Sugiyama.
À chaque fois que j'entends, j'ai les poils qui se hérissent, mais dans le mauvais sens. Il rentre à l'intérieur, en fait. Tellement je ne le supporte plus. Je l'ai trop entendu, je crois. Dragon Quest, donc, Thomas.
C'est une affirmation bien caricaturale au vu de ce que la série a pu nous proposer en termes de joyeuseté musicale. Mais qu'importe, effectivement, tu as raison, mon cher Plume. On fêtait les 35 ans de la licence jeudi dernier, 35 ans de bons et loyaux services. Et pour le coup, eh bien, Yuji Horii avait fait monter la sauce, avait prévenu qu'il y aurait de l'annonce et peut-être même l'annonce de DQ12 qui a effectivement eu lieu. Donc, comme d'habitude, hein, quand on annonce un Dragon Quest, c'est un nom, un logo et puis rentrez chez vous les enfants, il n'y aura pas grand-chose de plus. Ce sera donc Dragon Quest 12 Flames of Fate, un opus qui tournera sous l'Unreal Engine 5. Donc, petit changement quand même pour la série qui avait jusqu'ici conservé un ton assez cartoonesque, assez rondouillard et coloré. Et Yuji Horii a d'office annoncé eh bien, que ce serait un opus plus adulte, plus sombre. Et il avait déjà laissé entendre qu'une parenthèse s'était refermée avec le 11e épisode, qu'on allait peut-être passer dans autre chose. Bon, bah du coup, on a une preuve, en tout cas une preuve verbale pour l'instant, puisqu'on ignore à peu près tout du reste, si ce n'est que le système de combat va être modifié. Apparemment, les commandes à l'ancienne ne plaisent plus tellement à Horii et à ses équipes, et du coup, on ne sait pas comment, mais le système de combat va changer. Alors, évidemment, pour ceux qui connaissent bien la série, on sait que le moindre petit changement dans une série comme Dragon Quest peut parfois provoquer un torrent d'émotions au Japon où les vieux joueurs sont arc-boutés sur les mécaniques à l'ancienne. Mais du coup, eh bien, il nous tarde de découvrir évidemment à quoi va ressembler cet épisode, puisque l'une des nombreuses questions, c'est qui assurera le chara-design, puisque Toriyama avait quand même bien fait comprendre qu'il en avait un petit peu ras-le-bol. Tu parlais de Sugiyama, qui commence à se faire très vieux aussi, hein, il est largement octogénaire, donc peut-être un véritable renouvellement en profondeur pour la série. Il y a eu tout un tas d'autres annonces, hein, les spin-offs, les présentations des épisodes d'Ai no Daiboken qu'on avait déjà pu évoquer, mais surtout, l'autre annonce qu'on retient, c'est évidemment l'annonce d'un remake pour Dragon Quest 3, l'opus qui avait déchaîné les foules au Japon au moment de sa sortie sur Famicom en 88, et qui du coup va revenir avec le moteur d'Octopath Traveler, qui s'appellera donc Dragon Quest 3.
Je vais faire une parenthèse tout de suite, parce que dans les rares choses que j'ai pu voir traîner sur les réseaux sociaux par rapport à Dragon Quest 3, ce n'est pas un moteur pour Octopath Traveler, c'est un style. Le moteur, c'est l'Unreal Engine 4. Voilà, je préfère quand même que les choses soient précisées, parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à dire « Ah, c'est le moteur de… » Non, Thomas, ce n'est pas le moteur d'Octopath Traveler, c'est juste le style néo-rétro d'Octopath Traveler qui est réemployé, et d'ailleurs de fort belle manière, je tiens à le dire, pour les quelques screens qu'on a pu voir. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il devrait faire assez régulièrement, à mon sens, pour des jeux rétro, proposer ce style avec ses éclairages et ces petits effets supplémentaires, ça donne quelque chose de quand même assez sublime. Voilà.
Je te remercie de m'avoir corrigé du coup, puisque j'ai fait la même erreur que tout le monde. Eh bien, je le saurais, je te remercie. Donc, avec le style graphique d'Octopath Traveler, ça tombe bien, puisqu'il y a une petite partie de la team Asano qui sera derrière pour superviser justement la refonte. Et puis, comme Yuji Horii est un créateur assez facétieux et qu'il aime bien s'affranchir de certains trucs, pendant la présentation, si vous l'avez suivi, il y avait un gong que je pense les attachés de presse ou les chargés de com tapaient derrière quand il en disait trop. Il martelait le gong pour lui demander de se taire, et il a quand même pris la liberté de dire que justement il aimerait bien refaire des Q1 et des Q2 avec ce style graphique là d'office, même si je pense qu'il avait pas spécialement le droit d'en parler. Au moins comme ça c'est lâché, les gens peuvent espérer du coup avoir l'ensemble de la trilogie Roto qui soit refaite. Donc c'est plutôt chouette, parce que je trouve que c'est un parti pris graphique qui marche très bien, qui se prête bien au style de JRPG à l'ancienne. Et tout ça va nous demander de faire preuve d'un petit peu de patience pour découvrir de quoi il en est. En tout cas voilà, de belles annonces pour les 35 ans de la saga et un 12e épisode déjà dans les cartons.
C'est effectivement déjà beaucoup de choses, hein. C'était déjà beaucoup d'infos pour le jeudi matin de la semaine dernière à digérer. Et au passage, rappelons aussi que l'Unreal Engine 5 est la deuxième partie de ce thème. L'Unreal Engine 5, donc, dont tu parlais, qui va propulser ce Dragon Quest 12, a été aussi montré la semaine dernière parce que, eh bien, tout simplement, Epic a décidé de balancer l'Early Access là, comme ça, pour les développeurs qui le souhaitent. Donc, une manière d'entrer dans le monde de l'Unreal Engine 5 qui est arrivé un petit peu en retard par rapport au planning qui s'était fixé, mais ça, bon, c'est pas très très grave. Mais on a donc pu avoir encore une fois une démonstration de tout ce que l'Unreal Engine 5 est capable de faire en termes visuels, avec tous ces termes techniques qui englobent des technologies qui, pour nous, simples joueurs, peuvent paraître complètement obscures, mais pour les développeurs, sont des espèces de talismans qui vont faire resplendir leur créativité. Donc, on a pu voir tous ces nanites et autres qui vont permettre eh bien, d'avoir un rendu qui est assez démentiel. Hein. Je pense que Poufy est en train de le montrer au moment où je vous parle sur la partie vidéo. Et si ce n'est pas le cas, allez dans la news qui est assignée à l'Unreal Engine 5. C'est tout simplement bluffant. Et ce n'est pas bluffant que pour la partie visuelle, c'est aussi bluffant parce que les développeurs ont vraiment des outils extrêmement simples pour pouvoir faire des choses extrêmement riche, extrêmement détaillé, et on a pu le voir notamment sur les réseaux sociaux, énormément de programmeurs ont mis les mains dans le cambouis et ont commencé à littéralement exulter de manière virtuelle, mais néanmoins exulter par rapport à toutes les possibilités et par rapport à toute la simplicité de l'outil. Et c'est là qu'on peut se poser la question de savoir si la Next Gen va pas finalement vraiment commencer à partir du moment où tous les développeurs vont pouvoir enfin profiter de cet outil qui s'annonce absolument fantastique. En tout cas, nous, de notre côté, Johnny One, c'est toi le premier qui y a pensé. On va encore une fois embrasser un de nos fidèles lecteurs qui, après un détour par un studio avec un monsieur qui a fait Ninja Gaiden, et travaille chez Epic Games, notamment sur le moteur. Caminos, si tu nous regardes, bisous, bisous.
Tu peux l'embrasser. Ce n'est pas un simple lecteur, hein. Il a fait quelques piges hein, sur le site.
Ah, oui, je ne me souviens pas. Bah, écoute, un ancien
Un ancien lecteur devenu pigiste.
Un ancien tout court. Tu sais quoi, un ancien tout court.
Ouais, encore plus classieux.
Non, il a rédigé quelques tests, hein, des tests majuscules. Là.
Je me souvenais donc, plus. Tu vois, c'est comme quoi hein, la mémoire 2021, tout ça, le Covid. Donc l'Unreal Engine 5, grosse claque aussi de la semaine dernière. Mais ce n'est pas la seule claque de la semaine dernière. Il y a eu une autre claque pour les fans d'un certain hérisson bleu, mon cher Thomas.
Ouais, alors claque,
grosse claque, mais
c'est
si.
La claque qui passe très vite, en fait. C'est la petite tape avec le mec qui part en courant, en fait. Parce
attends,
que...
mais une fois de plus, c'est incroyable. On peut dire le niveau d'espoir des fans de Sonic est regrimpé en flèche la semaine dernière.
Alors, en plus, c'est pas spécialement leur faute, parce que Sega a quand même contribué à faire monter un petit peu la sauce, justement, avant l'annonce. Et on pouvait légitimement se dire qu'on allait vraiment découvrir le nouveau Sonic qui allait sortir pour les 35 ans, avec plein de trucs et tout. Non, teaser d'une trentaine de secondes, grand max, pour celui qui n'a pas encore de nom, même si on va l'appeler Sonic Rangers pour l'instant, puisque des gens ont un peu farfouillé le code de la démo, et puis même dans le communiqué de presse qui a été envoyé, il était fait mention de Sonic Rangers. Alors, nom de prototype, nom définitif, on ne sait pas encore. Et puis, le teaser qu'on a eu... Comment te dire qu'on va pas manger longtemps avec ce truc-là, quoi. On voit juste Sonic courir, petit zoom sur une de ses chaussures, puis après il dessine une forme alors que la caméra le regarde depuis le dessus. Et c'était à peu près tout, en fait, sorti en 2022, et puis démerdez-vous avec ça. Donc c'était vraiment faire monter la sauce pour pas grand-chose, parce que derrière, qu'est-ce qu'on a eu comme autre annonce pour fêter les 30 ans de l'ex-mascotte de Sega ? On a eu le retour de Sonic Colors dans une version Ultimate qui avait quand même déjà fuité, on vous en avait parlé quelques semaines avant. Donc une version revue et corrigée assez rapidement, en tout cas d'un jeu qui avait eu un certain succès, faute d'un succès commercial, qui avait en tout cas connu un certain succès critique à l'époque de sa sortie sur Wii et sur DS. Donc là, c'est évidemment la version Wii qui va être retravaillée. Et puis, une compile, une de plus. Les compiles Sonic, on connaît ça depuis, depuis la Mega Drive, en fait, hein, puisqu'il y avait déjà Sonic Compilation, alors que Johnny One veut dire une connerie.
Ouais, c'est une connerie. En fait, en vrai, il y a eu plus de compiles que de jeux Sonic. Voilà.
Probablement.
Écoute, c'est une question très intéressante. Je pense qu'il faudrait faire le comparo. En tout cas, là, c'est Sonic Origins. Alors, rien de très inédit. On va compiler d'anciens épisodes, sauf que cette fois, on aura Sonic 3 et Knuckles, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Et puis Sonic CD, qui est quand même un épisode ô combien chéri des amateurs de Sonic, et j'en fais partie. C'est un épisode 2D qui était quand même super chouette, avec un écran large, quelques petits ajouts comme ça, un petit peu modernes. Mais en termes d'annonces concrètes, en termes de hype, on n'a finalement pas eu grand-chose, quoi. C'est rendez-vous en 2022 pour découvrir de quoi sera fait le futur de Sonic the Hedgehog. Et c'est quand même un petit peu dommage, parce que 30 ans, ça n'arrive pas tous les jours. C'est un bel âge, et ça s'est très vite terminé, finalement, en nous laissant un petit peu sur notre faim. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé ça très léger, quand même.
Pour fêter les 30 ans, on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus impactant, c'est certain. C'est pas avec ça que les fans de Sonic vont pouvoir se boucher une dent creuse. Mais bon, c'est toujours bien de savoir qu'il va y avoir un nouveau Sonic.
Oui, et
Espérons
puis
que
on
ça.
pourra rattraper Colors aussi. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, donc j'en profiterai au mois de septembre quand il sortira.
Espérons que ce sera du niveau de Sonic Mania, au moins du niveau de Sonic Mania, puisque il est loué à peu près à travers le monde entier.
Oui, mais
Merci.
Sega avait laissé entendre qu'ils n'avaient pas envie de s'enfermer dans un trip néo-rétro, justement, comme celui de Sonic Mania. Donc moi, je ne compterais pas forcément trop là-dessus. Sega reste quand même une entreprise japonaise et on sait que généralement les Japonais n'aiment pas trop que leurs créations leur échappent trop longtemps et partent dans d'autres mains. Je pense qu'ils vont essayer de se réapproprier quand même la formule et que malheureusement un nouveau Sonic en 2D, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. C'est mon interprétation personnelle, hein, c'est pas mes infos. Mais
D'accord,
je
bon.
m'attends plus à un épisode 3D. Alors après, à voir s'il y aura les Shitty Friends de rigueur, le Sonic Cycle et tout, on verra ça d'ici à sa sortie.
Oui, il y a déjà des rumeurs qui parlent de monde ouvert et d'autres bêtises, notamment grâce à du data mining. Donc ce sera encore une fois à surveiller de très près. L'autre, on va dire la dernière ligne droite de toutes ces démonstrations du jeudi 27 mai, c'est aussi Dying Light 2. Dying Light 2, donc, qui a été daté, qui a eu droit à une émission, le Dying to Know, voilà, un premier épisode parfaitement, comment dire, parfaitement orchestré, enfin avec des gens qui lisaient un prompteur, mais qui essayaient de faire passer ça pour quelque chose de naturel. Mais néanmoins, ils se sont bien embêtés à faire un décor de toit de ville pour avoir quelque chose d'un petit peu classe. On serait presque cru à l'E3, en fait, vraiment pour l'habillage de cette émission qui a livré finalement au moins une information, au moins deux informations importantes, allez, outre la date de sortie qui est calée pour le 7 décembre. Cette fois, on sait que le jeu va bien. Voilà, c'était une des grosses craintes. Tout le monde pensait que finalement, avec toutes les histoires de réalisateurs ou de directeurs narratifs qui se font la malle ou qui sont virés, plus les rumeurs de management, on va dire un peu azimuté, qui
Crasseux.
surgissait un peu partout. On se disait, le jeu sortira jamais, quoi. Techland va nous refaire le coup de Dead Island 2. Et ben pas du tout. En fait, le jeu a l'air d'aller très bien. On a vu plusieurs séquences de jeu décrites. On a appris des choses par rapport à ce que sera le jeu. Donc, ça ne se passera pas à Arran, la ville du premier jeu, qui, je le rappelle, est un excellent jeu et il y a une nouvelle version complète qui vient de ressortir. N'hésitez pas à le faire, il est vraiment super. Donc, on a découvert que ça se passait cette fois dans une ville qui s'appelle Ville d'Or, aussi connue sous le nom de The City, qui sera découpée une fois de plus en deux régions, qu'on incarnera un personnage qui s'appelle Aiden Caldwell, qui cette fois ne fait pas partie d'une unité militaire, mais qui est juste un type qui veut. Qui a infiltré la ville pour essayer de retrouver des proches. Encore une fois, petit point contexte, ça se passe 20 ans après le premier épisode. Et là, cette fois, le virus, en fait, du premier épisode, eh ben, il a éradiqué 90% de la planète. Donc, le seul endroit encore à peu près safe, c'est cette ville, qui est malheureusement, quand même, reste assez infestée de jour comme de nuit. Donc, encore une fois, ça va être un pro du parcours que vous allez incarner. Ça sera la grande force du jeu, une fois de plus, puisque c'est beaucoup de verticalité dans un monde ouvert où dans lequel vous pouvez vous accrocher à peu près partout, faire des roulades de tous les côtés, rebondir sur les murs. On a pu voir aussi quelques accessoires, notamment une sorte de parachute. Alors, on va parler d'Horizon Forbidden West après, mais j'ai l'impression que Zelda et le paraglide
On
ont
fait des
initié
émules.
quelque chose. Mais bref, on a l'impression qu'il y a ça aussi qui va être disponible dans Dying Light 2. Plein de choses qui rassurent sur la technique aussi. Ça a l'air vraiment joli, bien calé. Il n'y a pas de trucs qui vraiment choquent dans tout ce qu'on a pu dans tout ce qu'on a pu voir. Le reste, c'est des choses qui avaient déjà été répétées. Il y aura des choix à faire. Le scénario aura beaucoup plus d'importance et sera plus chiadé que dans le premier épisode qui, de ce côté-là, pêchait énormément. Il y aura toujours des questions de choix, notamment quand vous allez libérer des zones pour savoir à qui assigner l'eau et l'électricité. pour des factions en particulier qui vont peut-être vous donner des avantages dans vos déplacements ou autres. Bref, ça va être du Dying Light pur et dur version plus, avec comme d'habitude le jour des rues qui seront mal famées avec un peu de zombies et un peu d'humains, et la nuit beaucoup beaucoup de zombies, et visiblement il y en aura beaucoup plus, et des tas de choses encore une fois à faire pour essayer de faire de votre survie quelque chose d'à peu près confortable. Donc profitez de la nuit pour aller dans les nids, pour essayer de récupérer de quoi crafter. Le jour, essayer d'avoir aussi un emploi du temps qui va vous permettre de socialiser. Bref, ça s'annonce assez réussi, encore une fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté post-apo un peu plus poussé, avec un peu de réflexion derrière, à savoir que comme les humains n'ont pas investi le rez-de-chaussée, le plancher des vaches, tout se passe maintenant en hauteur. Donc on peut voir dans les différentes vidéos qui ont été montrées que la culture maintenant, dans le sens agriculture, se passe en hauteur, que les plantes se sont mises à pousser, mais pas, encore une fois, pas au rez-de-chaussée, mais vraiment dans les gratte-ciel. Bah, ça donne un petit côté vraiment très réfléchi, je trouve, par rapport à ce que pourrait être un monde infecté, mais dans lequel la nature aurait peut-être plus les mêmes étages, devrait un petit peu s'élever. Je trouve que c'est bien, bien amené. Et puis après, le fait que ce soit jouable à 4, qu'on puisse voir aussi un peu d'action. Alors l'action, ça a l'air, mais encore beaucoup plus crade que dans le premier. On a vu pas mal de démembrements qui étaient assez crades, assez violents. Donc ça semble être un bon Dying Light. Maintenant, il va falloir voir si ce Dying Light 2 Stay Human, puisqu'il a un sous-titre, se joue aussi bien qu'on peut l'imaginer, que Techland a bien bossé comme on le pensait. Moi perso, je pense que ça va être un de mes jeux les plus attendus de l'année, mais la dernière fois qu'un jeu polonais est sorti en décembre sur les consoles de génération précédente, ça s'est très mal passé.
Donc, tu le feras sur PC.
De toute façon, oui. mais bon, on vérifiera quand même que les versions de gènes précédentes sont pas trop, vous voyez, pas trop mises en retrait, parce qu'on a eu un sale tour avec un autre jeu il n'y a pas très longtemps. Bref, pas besoin d'en dire plus. Voilà, ça c'était l'autre jeu de ce jeudi 27 mai. Plus tard, vers 23h cette fois, on a eu Horizon Forbidden West. Et là, Horizon Forbidden West, alors autant moi je ne suis pas un gros fan de Horizon Zero Dawn pour des tas de raisons, mais quand même, la présentation de 14 minutes, si elle n'est pas, très éloquente sur certaines choses, notamment pas de date, voilà, toujours pas de date pour ce jeu qui est censé arriver cette année sur PS5, elle montre quand même des choses sur PS5 qui font incroyablement plaisir aux yeux. Johnny, qu'en penses-tu ?
Oh bah, magnifique, hein. Moi j'avais adoré le jeu de base, que ce soit en termes de jouabilité. Bon, après ça reste du monde ouvert assez basique, du jeu Sony cahier des charges, grand spectacle, mais ça fait de façon très très efficace le travail. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier, et là on va retrouver une formule similaire, avec des environnements différents et un jeu encore plus beau. Que demande le peuple ?
Voilà, on pourrait résumer ça, effectivement. On rappelle quand même que cette suite donc, va se passer aux alentours de vers la Californie. Donc. Et la séquence qui nous a été montrée, elle se passait près de San Francisco. Pour décrire rapidement, mais vous devez en voir un bout, et vous avez peut-être regardé la séquence en elle-même plusieurs milliers de fois en 4K en vous frottant les yeux pour être sûr. Donc c'est une séquence dans laquelle on retrouve Aloy qui va croiser certains de ses compagnons qui ont subi une embuscade. Son pote, vous savez, le moustachu là, qui a la grosse moustache, Erend, s'est fait capturer, et donc il va falloir qu'elle essaye de trouver un moyen de le sauver des griffes d'un clan qui s'appelle les Tenact, des guerriers qui sont capables de pirater eux aussi des machines. Et ça, des machines, ça ne va pas manquer. D'ailleurs, toute la séquence nous met face à différentes machines qu'on n'avait pas croisées auparavant dans Horizon Zero Dawn, notamment une espèce de mammouth qui fait la fin de la séquence, et quasiment la moitié d'ailleurs, hein, puisque c'est un gros boss, tout simplement. Et on peut voir différentes choses durant cette séquence. Déjà, la plage, qui est sublime quand on arrive la première fois, et qui d'ailleurs montre certains détails que je trouve assez magnifiques par rapport à tout ce qu'avait fait déjà le premier, à savoir c'est un monde qui a connu l'apocalypse, il y a plusieurs milliers d'années. Donc on retrouve des enseignes, des bâtiments qu'on a l'impression qu'ils sont momifiés, qui sont sur le point de s'écrouler, presque sur le point de s'effriter. Quand on les voit de loin, on a une patine vraiment assez phénoménale et une végétation mais monstrueuse par-dessus, ce qui fait que le jeu, encore une fois, a énormément de couleurs à afficher et c'est super beau, mais alors super beau. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé du moment où on voit la première cinématique, donc le tout début de la séquence, où on voit Aloy qui arrive se pencher sur son pote là qui a été pris en embuscade, qui lui dit ce qui s'est passé, où elle lui verse un peu d'eau dans le gosier pour essayer de soulager sa douleur. Je trouve que en termes d'animation déjà, donc de capture de mouvement, c'est incroyable. Mais alors le rendu des visages et cette espèce ce détail qu'il y a. Alors, je sais que ça a été très critiqué ce week-end que Aloy était un peu plus, avait le visage un peu plus bouffi. Bon, pourquoi pas. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'ils se sont fait chier à faire ces rougeurs, qui sont logiques parce qu'elle a un teint de rousse et qu'il y a du soleil. Et que, oui, forcément, quand tu prends le soleil, n'est-ce pas, Thomas ?
C'est une équation qui finit toujours très mal.
Voilà, tu es un peu rougi. Et ils se sont même permis de faire un peu de duvet sur son visage, ce qui est quand même quelque chose, un sens du détail qui est assez renversant, je trouve. Et ajouter à ça un effet de lumière qui entoure les personnages, on a l'impression d'être vraiment face à un film. Il n'y a pas de transition entre la cutscene et le jeu, et tu as vraiment l'impression d'être dans un film d'animation, alors on va dire Pixar ou autre comme d'habitude, mais un film d'animation en image de synthèse tout simplement.
Il y a un moment qui était très joli aussi au niveau de l'animation de la chevelure, c'est le moment où elle plonge. Et vraiment, il y a un effet physique sur la chevelure qui était assez saisissant. Je te rejoins sur tout ce qui a été dit sur le plan graphique, où le jeu est vraiment fait preuve d'une palette de couleurs assez incroyable. Tout est extrêmement lumineux. Il y a une attention aux détails, tu parlais des visages, mais même aussi sur les dinosaures mécaniques qu'on a pu voir, où vraiment, on voit bien qu'en termes de modélisation, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées, étudiées pour... avec beaucoup de guillemets, être cohérent dans cet univers, dans l'univers d'Horizon. Après, moi je vais me faire une voix un petit peu différente. Malgré tout cet enthousiasme, je vous rejoins sur ce côté graphique vraiment véritablement époustouflant. En termes de mécanique, on a vu un truc, comme disait Johnny, en fait, cahier des charges classique, alors classique efficace, mais assez conventionnel presque pour... conventionnel une fois de plus pour un jeu PlayStation Studios, donc avec quand même un certain niveau de qualité déjà à la base, mais il n'y a pas une mécanique qui m'a fait tomber à la renverse quoi, dans ce que j'ai pu voir. C'était surtout très joli, très fluide, continu, etc. Mais quelque part aussi, je veux pas dire déjà vu, je veux pas être mauvaise langue, mais assez sage finalement en termes de gameplay.
Alors Je vais me permettre, parce que je l'ai fait complètement et avec le DLC Horizon Zero Dawn, j'ai l'impression quand même qu'ils ont rajouté des trucs.
Oui, bien sûr, mais je parle en général, tu vois, vraiment en termes de game design global. Ah,
faudra voir, oui, là, encore une fois, ça reste un jeu Ubi. Si tu reprends Far Cry 3, t'as l'impression d'avoir le même jeu. Un monde ouvert, matinée d'infiltration et d'action, dans lequel tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, avec beaucoup de spectacles. Et cette fois, en plus, un joli grappin qui, quand t'es en l'air, te permet de t'accrocher un peu partout. Moi, j'aime bien les nouveautés qu'ils ont ajoutées quand même, à savoir le focus qui permet de voir les prises sur lesquelles tu vas pouvoir t'accrocher sur des blocs, des tours en l'occurrence. Et peut-être que ce sera aussi le cas pour des arbres d'ailleurs. Le fait qu'il y ait ils appellent ça l'aile glide, si je ne m'abuse, pour faire comme dans Zelda, pour flotter, mine de rien, s'ils le reprennent, c'est qu'il y a une bonne raison, tu ne t'inspires pas des meilleurs pour rien. Et puis, le fait qu'on puisse aller sous l'eau, ça va aussi changer des choses, je pense, en termes d'exploration et en termes d'approche. Par rapport à tout ce qu'on va pouvoir faire justement quand il y aura beaucoup de bestioles ou beaucoup d'ennemis, ça risque d'être bien. Et honnêtement, la patate qu'il y avait dans le combat face au mammouth, j'ai trouvé qu'elle était très importante, et même dans un corps à corps avec un humain, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses intéressantes. Après, il faudra voir effectivement si la structure en elle-même va être un peu différente de celle du premier, et surtout s'ils ont fait des efforts au niveau de la mise en scène, parce qu'on se rappelle que dans Horizon Zero Dawn, tu vas voir quelqu'un pour prendre une quête, c'est toujours les mêmes champs contre champs pourris, avec aucune âme, rien, que dalle, et même de manière générale, la mise en scène, ok, quand il y a des trucs un peu spectaculaires, là, ils savent faire quelque chose, mais tu ne te sens pas aussi impliqué que ce que tu devrais être, je pense, quand il s'agit d'accomplir des tâches dans le jeu. Donc j'espère que de ce côté-là, Guérilla, ils ont vraiment fait des efforts. Johnny.
Ouais, moi, il y a un autre truc qui me fait un peu flipper avec cet Horizon Zero Dawn. Donc moi, je vous l'ai dit, je l'avais beaucoup aimé. L'histoire, notamment, le scénario m'avait beaucoup plu. Et quand tu arrivais à la fin du jeu, tu arrivais à la fin de quelque chose, en fait, en vrai. Hein. Et les tenants et les aboutissants du monde, tu les avais compris. Le DLC Forbidden West, c'est le nom du deuxième.
Frozen Wilds,
te racontait une autre histoire qui n'était pas moins intéressante, mais qui était tout de même un peu moins importante que l'histoire principale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans cet Horizon 2, univers dont on sait ce qui s'est passé, en fait, en vrai. On sait pourquoi les humains ont disparu, on sait ce qui est arrivé, on sait comment est-ce qu'on aurait pu faire pour lutter contre ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme nouvelle histoire ? Alors qu'ils ont plus ou moins bouclé l'arc scénaristique en terminant le premier. Je pense que ce sera moins passionnant.
Bah ça c'est tout le mystère, et heureusement pour pas nous spoiler complètement. Après, on sait que par exemple il y a des personnages qui vont revenir, dont celui de Silence qui est joué par Lance Reddick, qui va revenir et qui a l'air toujours aussi ambigu, j'ai l'impression. Il y a cette tribu là qui peut pirater les machines, pareil, il doit y avoir un truc avec celle-ci. On a eu, alors, encore une fois, pas mal d'enjeux. À la fin de la présentation, on voit Aloy et Erend qui fixent une espèce de grosse tornade qui arrive vers eux. Comme quoi un gros orage arrive. À mon avis, il va y avoir des enjeux qui, encore une fois, seront suffisants, mais ça, tout ça, il va falloir qu'on ait le jeu entre les mains pour le savoir. Et quand on voit la gueule qu'il a sur PS5, on ne sait pas quoi il ressemblera sur PS4, quand on voit la gueule qu'il a sur PS5, ça motive. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Autre chose à ajouter pour vous, pour Horizon ? Eh bien, alors, on va passer au dernier présenté de la semaine dernière, c'est Far Cry 6, donc qui avait été reporté par Ubisoft, qui aurait dû ressortir en début d'année. Finalement, il arrivera le 7 octobre, voilà, il a sa date. Et la présentation, qu'est-ce qu'on peut en dire, à part que Far Cry va faire du Far Cry, tout simplement, et que tout va miser, en fait, sur, comme d'habitude, sur le contexte, l'ambiance et le méchant, tout simplement. Donc là, on a pu voir un peu plus l'île de Yara, donc, qui est une espèce de Cuba, un Cuba fictif, dirigé par Anton Castillo, qui est le dictateur du coin avec son fils Diego, et Anton Castillo qui est joué par un sacré bon acteur qui aime bien faire les méchants. Et donc, rien que pour ça, rien que pour la présence de cet acteur qu'on retrouve dans Breaking Bad, Better Call Saul ou encore The Mandalorian, Giancarlo Esposito, donc rien que ça, ça peut faire la différence. On sait que le méchant, en général, ça donne vite le ton d'un Far Cry. Pour le reste, il y a quand même un truc qui est assez étonnant par rapport à Far Cry, outre le fait qu'on a l'impression qu'il prend un tournant Just Cause avec ses accents un peu latino, c'est que en fait il va y avoir beaucoup d'environnements ruraux, de jungle, de bord de mer, mais il va aussi y avoir des villes et pas des villages, des villes et aussi une capitale. Et c'est là que je me demande comment ça va se jouer. On nous parle de dans la présentation, on nous parle de possibilités de s'infiltrer, mais de se fondre dans la foule, payer des pots de vin pour aller faire des sabotages et autres. Je me demande comment tout ça va s'articuler, en plus de la formule habituelle du Far Cry qu'on connaît. Ça peut être quelque chose de sympa. Après, techniquement, ça a l'air plutôt rigolo. Il y a des très belles phases qui ont été montrées. Je sais pas si les visages me paraissent pas toujours parfaitement, on va dire, en phase avec la technique des environnements. Et puis, bah, le reste, c'est complètement fou comme d'habitude. Vous aurez des compagnons crocodiles, un petit chien estropié avec ses roulettes à l'arrière, un lance-CD gravé avec la Macarena dessus. Enfin, ça a l'air de, encore une fois, de pas trop se prendre au sérieux. D'ailleurs, Ubisoft, je crois, l'a répété. C'est pas politique, une fois de plus. Et donc, non, Thomas ?
Ah, le directeur narratif est revenu tout seul dessus en expliquant qu'il parlait en son nom propre uniquement, mais comme le jeu parlait de la montée du fascisme, de l'impérialisme, du travail forcé, ce genre de trucs, et il a enfoncé une porte ouverte que personne d'autre ne veut enfoncer chez Ubisoft en disant que Far Cry 6 était un jeu politique. Voilà.
Ah, donc il est revenu sur
voilà, ce... mais en ne précisant bien qu'il ne parlait que en son propre nom et pas au nom de, du studio, de l'équipe, de l'éditeur, etc. Voilà, pas prendre trop de risques.
Toute ressemblance est fictive et tutti quanti.
Ouais, ça doit être à peu près ça la formule, effectivement.
Et on va dire que ça va mieux en le disant.
Oui. Bon, en tout cas, ça se présente plutôt pas mal, encore une fois. Far Cry qui a l'air sympathique. En plus, on pourra jouer une femme pour changer, ou un homme d'ailleurs. On aura le choix entre les deux, si j'ai bien compris. Donc, tout le monde devrait être content. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ben, je vais être très naïf et je vais espérer que justement l'arrivée d'un paysage urbain plus dense, ça va peut-être permettre de casser un petit peu la routine et de te donner l'impression de faire autre chose qu'une succession de missions avec la destruction d'avant-postes entre deux points sur la carte, parce que c'est un peu ce qui manque pour dynamiser, je trouve, la formule. En tout cas, dans le 5, on l'a clairement senti. Donc peut-être que cette géographie qui va changer un petit peu va être le moyen de donner un peu plus de rythme finalement à l'aventure ou de lui permettre voilà, du renouvellement et peut-être de pas trop s'étaler, en tout cas de nous proposer des choses intéressantes de bout en bout. Voilà, bah, j'espère.
En voyant le système de planque, les espèces de récup à la Far Cry New Dawn et le crafting de manière générale et la façon dont sont présentées les interactions avec les autres personnes qui vont vous accompagner pendant la Révolution, j'ai pas l'impression qu'ils vont changer grand-chose. Mais bon, on verra bien une fois de plus. Ça sort le 7 octobre prochain, Far Cry 6. Messieurs, on va passer au deuxième thème. Johnny, le deuxième thème, ça
tout
commence avec toi.
Et ça les commence tests,
avec Biomutant.
Biomutant, tout à fait. Alors, Biomutant, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite arlésienne. Hein. Ça fait un petit moment qu'il avait été annoncé en 2017. Il devait sortir en 2018. Le studio qui le développe, c'est 101 Experiment. Alors, vous ne les connaissez pas parce que c'est leur premier jeu. Mais vous les connaissez peut-être parce que c'est des anciens de... Alors, je ne sais plus la boîte, mais les mecs qui bossaient sur Just Cause. Voilà. Mais qui a tout un contingent de développeurs qui se sont
Avalanche.
Passés. Avalanche Studio, voilà, merci. Wow. Qui sont partis de chez Avalanche, qui ont fondé leur propre studio. En 2015, 2017, ils annoncent leur jeu, Biomutant sorti prévu en 2018, sauf que bah, il aura fallu attendre 2021 pour poser ses gros doigts dessus. Donc ça fait quand même un sacré délai, il y a eu pas mal de petits reports. Nous, on avait pu y jouer en 2019 à la Paris Games Week et ça nous avait plutôt saucé. Et du coup, bah, on attendait le jeu avec une certaine impatience. Bah, il aura fallu attendre presque un an et demi de plus pour pouvoir avoir droit à une version test. Et du coup, bah, cette version test, on l'a eue, on y a joué sur Xbox. Et bah, on a été plutôt convaincus, on vous raconte pourquoi. Donc déjà, au niveau de l'univers qui est créé pour ce jeu, donc c'est un univers post-apocalyptique qui se passe des milliers d'années après la disparition des êtres humains sur Terre. Êtres humains qui ont bien fait de la merde avant de disparaître. Ils ont causé leur propre extinction, en fait, hein, avec des trucs nucléaires, des trucs toxiques, des trucs radioactifs, des trucs, tout ce que tu veux. Tout ce
c'est bien nous.
Voilà, exactement. Donc on a disparu. Mais on a laissé toutes ces cochonneries, et toutes ces cochonneries, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait muter les bestioles. Du coup, vous vous retrouvez avec un univers peuplé de ruines humaines, donc des bâtiments, des usines, des cabanes, des maisons, des buildings, toutes ces choses-là. On les retrouve un peu comme dans Horizon Zero Dawn, en fait. Il y a un très très gros point commun en termes de design entre le décor d'Horizon Zero Dawn et ceux que tu peux retrouver dans Biomutant, ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, on est dans un univers comme ça, post-apo, où c'est des bestioles en fait qui vont faire leur vie. Et vous jouez quoi ? Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un chat ? Est-ce que c'est un petit panda ? Est-ce que c'est un hamster ? Voilà. Bah, c'est quelque chose comme ça qui a muté et qui ressemble à un chat, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est un chat mutant qui marche sur ses deux pattes arrière, qui arrive à manier des pistolets, des armes au corps à corps, qui peut s'habiller et qui a même un langage. D'accord ? Donc, vous êtes ce chat, vous êtes l'élu, en fait. Vous êtes le chat qui revient de qui a vécu sa vie sauvage élevée par les loups et qui revient dans la ville pour faire quoi, en fait ? Ah bah oui, pour faire quoi ? Bah, au milieu de cet univers, il y a ce qu'on appelle un arbre de vie. L'arbre de vie qui est un peu le symbole, hein, l'arbre bojo, l'arbre mana, enfin voilà, tous ces trucs-là, hein, les grands classiques des univers fantastiques. Donc on retrouve cet arbre de vie qui serait, a priori, on n'est pas vraiment sûr, le garant des dernières traces de vie sur notre planète. Voilà, donc... Là, qu'est-ce qui se passe ? Cet arbre de vie, on vous propose soit de le sauver, soit au contraire de le détruire, de devenir. Donc, vous pourrez soit devenir le Messie, soit l'Antéchrist dans Biomutant. Voilà. Et donc, à partir de là, vous aurez un petit scénario qui va vous emmener. Alors, c'est assez rigolo avec des petits choix de karma. Ah, bah, qu'est-ce que vous deviendrez ? Est-ce que vous deviendrez un enfoiré ou est-ce que vous deviendrez le sauveur du monde ? Voilà. Donc, en termes de scénario, c'est pas oufissime, mais ça reste très manichéen, même s'il y a cette petite notion de choix qui est assez intéressante, qui pourra nous permettre de refaire le jeu pour voir éventuellement l'autre fin, si on ne se contentera pas d'aller la voir sur YouTube. Et c'est surtout en termes de narration, en fait, que c'est assez original. En termes de narration et de design, si l'histoire n'arrache pas quatre pattes à un canard, le design, lui, est très joli. Donc, c'est-à-dire, bah, tout est très mignon, déjà. On se retrouve avec une aventure, avec une ambiance à la Ratchet & Clank, un peu, Jack and Dexter, Legend of Kay, pour tous ceux qui connaissent tous ces vieux jeux PS2. Mmh. Et il y a un autre truc qui alimente cette ambiance assez délirante et assez magique, c'est un narrateur qui va venir nous parler et commenter la moindre de nos actions, même pendant les combats du jeu ou pendant les quêtes secondaires ou quand on va aller ramasser un item, bah on va avoir le narrateur qui va faire une petite intervention et qui va commenter ce qui se passe. D'ailleurs, c'est plutôt bien fichu. La VF est une plutôt bonne VF, voilà, la voix du narrateur qui sera la seule que vous entendrez dans le jeu et plutôt bien doublée. Ça, c'est un aspect qui nous a vraiment... Enfin, que j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, vraiment dans le jeu, cet aspect design, narration qui est plutôt stylé, très humoristique, toujours décalé, toujours sur un ton décalé, vraiment très très intéressant. Et puis bon, si le narrateur il nous saoule, on peut réduire la fréquence de ses interventions dans le menu. Moi, je l'ai laissé. Donc en termes d'univers, franchement, c'est très très séduisant. En termes de design aussi, très mignon, très, comme je vous l'ai dit, très second degré. Il y a vraiment de quoi charmer énormément de joueurs, une grande majorité de joueurs, des plus grands comme des peut-être un peu plus petits, même si ça reste quand même un jeu assez mature au final, parce que ça a parlé de pollution, de choses comme ça, de trucs pas forcément toujours très rigolos. Voilà. Donc en termes d'univers, franchement, c'est très séduisant. Par contre, là où ça va l'être peut-être un tout petit peu moins, c'est sur la jouabilité. L'aspect qui m'a le moins convaincu, c'est la jouabilité côté action. Donc côté action, qu'est-ce qu'on a ? On a donc des... Oui, vas-y, dis-moi.
J'allais te le dire. J'ai pu le lancer un tout petit peu. J'allais te dire, je trouve quand même que c'est quand même très raide pour un jeu.
Moi, je trouve ça pas. Oui, raide. Moi, je trouve ça mou. C'est le qualificatif.
Aussi, oui.
Que j'aurais utilisé, notamment la partie beat'em all action corps à corps. Voilà, je trouve qu'elle n'est pas très bien réussie. Ton personnage, il n'a pas énormément de combos différents, même si c'est vrai que tu peux débloquer des armes différentes. Bah, les sensations des armes, elles ne sont jamais très bonnes corps à corps, quelle que soit l'arme en fait, que ce soit le gros point que tu charges ou le bâton. Ouais, voilà, c'est mou. Mmh. Les combats, ils sont mous au corps à corps. Alors, pour. Égayer un peu la chose, quand même, on a deux autres composantes dans les combats au corps à corps. C'est trois autres composantes. La première sera un aspect défense, où on va pouvoir esquiver ou contrer. La deuxième, ce sera un aspect distance, où on va pouvoir tirer avec des flingues. Alors, des flingues, il y en a plein. On va pouvoir tirer avec des flingues sur ses ennemis. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'en ai déverrouillé un des derniers que j'avais déverrouillé, qui faisait le même bruit, vous savez, que dans les tontons flingueurs, quand vous tirez avec un bruit de bouteille que tu débouches. Ploup, ploup, voilà. Donc l'aspect tir, lui, il est plutôt bien réussi parce que c'est assez marrant. Il y a un autolock qui est très efficace. Quand vous faites une esquive, une roulade ou un saut en même temps que vous tirez, la caméra se ralentit en mode Max Payne ou Wet ou Stranglehold. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous ces vieux jeux des générations précédentes. Voilà, donc on a un petit reminder du Bullet Time, voilà, le Bullet Time qui se rappelle à nous. Et c'est assez agréable, c'est assez rigolo comment c'est fait. Et le dernier aspect action-combat, c'est des pouvoirs. Alors là, qui vont être définis plutôt par la classe de personnage que tu vas choisir au début. Donc tout le monde n'aura pas forcément accès aux mêmes pouvoirs. Donc en termes de gameplay, c'est pas extra les combats. Il y a des passages avec des mechas à des moments. Ça apporte un peu de variété, mais c'est pas oufissime non plus. Notamment, alors là, pour le coup, le combo au corps à corps du mecha, il est surpuissant. Mais tu n'arrives pas vraiment à le diriger. Voilà. Donc, ça rend les combats toujours, même avec le mecha, un tout petit peu mou encore. Tiens, je vous parlais des armes, etc. L'aspect RPG, lui, est un peu plus développé que l'aspect combat. Tu vas pouvoir équiper ton... Alors déjà, tu auras un éditeur de personnage. Au début, tu vas pouvoir choisir quelle sera la race de ton petit chat, que ce sera un chat, un panda ou un hamster. Tu vas pouvoir choisir sa classe aussi. Et à partir de là, tu auras accès donc à pas mal d'équipements, des compétences à déverrouiller. Donc, quand tu passes des niveaux, tu vas pouvoir choisir où mettre tes points de niveau. Tu vas pouvoir déverrouiller des nouvelles compétences, des nouveaux combos, des compétences passives. Et surtout aussi pas mal d'équipements. L'équipement, c'est assez amusant parce que tu peux le crafter. Alors, le craft, ça se passe en mode Fallout 4, par exemple. C'est-à-dire que... ton armure, tu vas pouvoir mettre un grillage sur l'avant-bras, un autre sur l'épaule, un autre sur le plastron, et du coup, tu vas pouvoir créer un style complètement déglingué à ton personnage. Les armes, c'est aussi fou, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer la crosse de l'arme, changer la lame, changer le viseur, pour arriver à des résultats, encore une fois, assez délirants en termes de design, on va dire, et d'imagination des créateurs. Et donc, tu vas pouvoir... passer un petit peu de temps dans les menus. Donc, on va passer un petit peu de temps dans les menus, mais malgré tout, j'ai trouvé que ces composantes RPG, si elles étaient très développées, elles ont au final peu d'impact. C'est-à-dire qu'on a des composantes qui sont, en termes de réglage, presque, allez, j'abuse un peu quand je dis ça, presque équivalentes à celles d'un Dark Souls, que ce soit en termes d'équipement, de choix, de là où tu vas mettre tes points de niveau, etc. Mais en fait, l'impact que ça va avoir sur le jeu, il est minime. Le jeu, tiens, je n'ai pas parlé ça dans la partie action, il est plutôt facile en fait. Moi, en normal, j'ai plutôt roulé dessus, j'ai pas vraiment eu de problème, et ce, jusqu'à la fin. Même les combats de boss, il n'y a pas trop eu de soucis. Je les ai réussis du premier coup. Donc cet aspect RPG, on se plaît à le faire, mais est-il vraiment si utile que ça? Je pose la question. Et il y a c'est une question rhétorique un peu. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'un aspect à aborder sur le gameplay, c'est l'aspect monde ouvert. Je vous ai parlé d'Horizon Zero Dawn tout à l'heure. Quand j'ai parcouru le monde de Biomutant, ben, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Horizon Zero Dawn du début à la fin. Alors pourquoi ? Parce qu'on est dans des décors post-apocalyptiques. Ça, c'est la première raison, c'est en termes de design, bien évidemment. Ça me fait penser à ce que j'ai déjà vu en vidéo même la même semaine. Voilà. Ce monde, il est un petit peu plus dirigiste que celui d'Horizon Zero Dawn. C'est-à-dire que le monde ouvert est plutôt réussi, on a des quêtes annexes à droite à gauche, des petites grottes à explorer, des ruines à explorer, tel bâtiment à explorer. Ça, c'est pas mal fichu, il y a de quoi faire, vraiment, en termes de quêtes annexes ou d'exploration pure et dure. Mais le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'en fait, en vrai, c'est pas vraiment un monde ouvert. C'est plutôt dirigiste. On te dit dans quelle zone aller, on te dit dans quel sens y aller. Et si tu veux aller battre le boss dans une zone qui est assez grande, sur la map, il faut pas que tu loupes le petit bout de chemin qui va t'y amener. Parce que les déplacements à flanc de montagne, vous allez en faire beaucoup. Et vous allez souvent pester contre ce chemin qui n'apparaît pas. Voilà, donc regardez bien votre map. Le jeu, c'est un pseudo-faux monde ouvert. Ça fonctionne, mais ce n'est pas oufissime non plus. Voilà. Donc, si je dois résumer pour l'instant ce que je viens de dire, super univers, super convaincant. Par contre, en termes de jouabilité, on est un peu en cran en dessous. On vous cite un Horizon Zero Dawn, qui est donc le jeu cahier des charges Sony, super bien fichu, expression qu'on vous rabâche dans ce podcast. Bah là, on est sur quelque chose qui est quand même un cran en dessous, clairement. que ce soit en termes de jouabilité, d'exploration ou de monde ouvert. Horizon, c'était pas foufou non plus, mais c'était très très quali. Là, on est un cran en dessous. Après, faut pas oublier qu'on est sur le jeu d'un premier studio. Et est-ce qu'on est vraiment sur du AAA ? J'en doute. On est plutôt sur du double A avec ce biomutant. On n'est pas sur du jeu indé, mais on est un peu le cul entre deux chaises. Voilà.
Ça se ressent techniquement, tout ça ?
Techniquement, alors le jeu, il est un peu daté, hein, franchement. Moi, j'y ai joué sur Series X. Donc, déjà, tu profites de super temps de chargement, tout apparaît instantanément. J'imagine que si tu joues sur une vieille Xbox One Fat, tu dois tous les trucs de popping que j'ai vu apparaître moi instantanément dans le fond du décor, bah, ils doivent peut-être mettre une ou deux secondes de plus si tu joues sur la vieille Xbox. Donc non, en termes de technique, c'est pas ouf. Les décors, notamment, sont un peu grossiers. Les personnages sont un peu plus fins, j'ai trouvé. Et puis, vous savez, ils sont tous à poil. Mmh. Et j'ai trouvé que la technique du poil était plutôt bien fichue. Je me suis amusé à faire des zooms un petit peu dans les fourrures de nos héros et de nos personnages. C'était assez convaincant. Non, franchement, si vous n'êtes pas trop compliqué, si l'aspect technique, ce n'est pas votre marmotte numéro un, clairement,
marotte,
ça passe.
Même, hein.
Marotte, ouais.
J'en ai tous crevé, hein, je comprends, mais
je fais comme Jamel Debbouze, j'utilise pas les bons mots pour décrire les trucs. Non, donc sur Series X ça tourne en 60 fps, un peu de popping par-ci par-là, et puis en fait surtout ce qu'il faut dire c'est que la direction artistique, ça je vous en parlais au début, elle est de haute volée, et du coup elle vient surélever le niveau de la technique peut-être un peu faiblarde. Voilà, donc non, clairement moi techniquement parlant je ne trouve rien à lui redire à ce jeu, surtout que comme je vous le dis, on n'est pas sur Horizon, on est sur un truc qui est en dessous. Donc non, Biomutant, moi j'ai vraiment été assez convaincu, tiens, il vous faudra, ça je l'ai dit, c'est assez linéaire, il faudra entre 15-20 heures pour le finir à peu près, donc c'est une durée de vie assez, assez raisonnable. Donc si je devais résumer, qu'est-ce qu'on a ? On a un super univers qui va vous rappeler les grandes heures de vos jeux préférés avec des animaux sur PS2, un gameplay qui est bon, qui n'est pas ouf, mais qui est bon, dans toutes ses composantes. L'aspect le plus faible étant peut-être l'aspect beat'em all. Tout le reste, ça fonctionne, même si ce n'est pas ouf. Et enfin, techniquement, là non plus, ce n'est pas ouf, mais c'est soutenu par vraiment une super DA. Voilà. Et je crois que c'est vraiment le gros point fort de ce jeu. Son univers et son ambiance. Voilà. Du coup, moi, j'ai choisi de lui mettre un joli 8 à ce biomutant. D'accord. Parce que je pense qu'il le mérite. Voilà.
Ok.
De par toutes ses qualités.
Très bien.
Et le mélange.
On verra si la note ne change pas entre le moment où on parle et le moment où le test va apparaître. Hein, ça se trouve,
le test va apparaître. Je ne pense pas. Non, franchement. Je suis assez sûr de mon coup. J'ai bien aimé l'expérience. Et je la conseille. Voilà.
Très bien.
Si le design vous a plu, ça pourrait peut-être vous faire oublier tous les autres petits cailloux dans la chaussure. Voilà.
Ok. Très bien.
Là, tu l'as plutôt bien vendu, écoute.
Ouais.
C'est vrai, tu nous l'as bien vendu. Est-ce que tu as le temps de rester ou tu t'en vas là ?
Non, je vais partir déjeuner malheureusement et puis il faut que je libère la salle dans laquelle je suis. Parce que
écoute. Bah, merci encore et puis à très vite, hein, Johnny.
C'est à vous les mecs. Et puis à très bientôt. Plus. Gros bisous, ciao, ciao.
Ciao. On passe à la suite du podcast. Je vais vous faire un petit topo rapide sur Asha in Monster World, Wonder Boy Asha in Monster World. Donc, adaptation modernisée de Monster World 4. Voilà, je m'y perds beaucoup hein, avec cette série et je crois que c'est le cas de tout le monde. Oui, donc, jeu sorti sur Mega Drive il y a un paquet d'années. Je ne pourrais même pas vous dire exactement si c'était il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Tellement ça, on a l'impression que c'était il y a des milliers d'années. Donc un jeu qui, en son temps, était très plaisant, vraiment. On garde tous un bon souvenir, mais il fallait y jouer en import à l'époque, parce qu'il est sorti qu'au Japon, malheureusement, sur Mega Drive, ce Monster World 4. Il est arrivé plus tard sur d'autres plateformes, notamment sur le PSN, où il est toujours disponible en version originale. Et ça reste un jeu qui a beaucoup de charme, notamment parce que son aspect, pixel art, donc c'est comme ça qu'on appellerait aujourd'hui, faisait vraiment très dessin animé pour l'époque et que bah, ça restait Wonder Boy quoi qu'il arrive. Donc, quelque chose de parfaitement charmant, même si, bon, il faut lui reconnaître des qualités un peu moins présentes que dans les deux épisodes précédents, puisque là, en termes de profondeur, c'est plus, bon, c'est plus du jeu d'action plateforme que du jeu d'action plateforme exploration. C'est très linéaire, c'est très dirigiste. Vous avez certains hubs dans lesquels l'héroïne, donc Asha, doit se rendre pour récupérer, améliorer son équipement. Mais à part ça, les 4-5 donjons qui sont proposés, c'est vraiment du tout droit, peut-être un petit peu labyrinthe pour l'avant-dernier, mais c'est tout. Et bah, c'est le problème de ce jeu, malheureusement, c'est qu'il a été refait donc, avec une apparence 3D, donc pour être un jeu en 2,5D, comme on dit, qui est plutôt réussi. Alors, c'était une des craintes qu'on avait quand on l'a vu la première fois. On s'est dit, mais pourquoi ils ont opté pour ça alors que The Dragon's Trap est sorti en 2D et qu'il est absolument magnifique, que Monster Boy et le Royaume Maudit de Game Atelier, qui est sorti il y a 2 ans, et lui aussi en 2D est absolument magnifique. Pourquoi avoir choisi la 3D? Bon, voilà, c'est une grande question. N'empêche que le cel-shading fonctionne. Il n'y a que les environnements qui sont un petit peu en retrait, vraiment. Ils sont assez grossiers et pas très détaillés, pas très vivants non plus. On va dire que ça fait le job. Néanmoins, cette adaptation en 3D a deux désavantages certains, outre la maniabilité qui est un petit peu, comment dire, un peu lourde et un peu sèche, qui fait que certaines actions ne sont pas forcément très intuitives et ne fonctionnent pas très bien. Les sauts, par exemple, peuvent être vite infernaux dans le jeu, ce qui est quand même un problème pour un jeu de plateforme. Et puis, il y a quelques hitbox aussi qui sont un peu bizarres quand vous affrontez des boss, par exemple. Bref, il y a ça, mais il y a surtout le fait que le passage en 3D a obligé ou a motivé Ryuichi Nishizawa, donc le créateur de Wonder Boy, à changer les échelles du jeu. C'est-à-dire que ce qui tenait auparavant sur un écran, maintenant a été tiré sur plusieurs. Et disons que rallonger des espaces qui sont très vides, c'est pas forcément une très très bonne idée pour un jeu de ce style. Vous passez beaucoup de temps à marcher, et au passage, il y a un vrai problème de design, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inventivité. C'est vraiment des couloirs tout droits avec des monstres que vous allez frapper mécaniquement, qui vont vous filer des pièces, et après on passe à la suite. Il n'y a pas vraiment de truc ingénieux, de profondeur comme il peut y avoir dans The Dragon's Trap, où on peut changer d'apparence pour ouvrir vers de nouvelles zones, ou Wonder Boy 4 sur Mega Drive, qui permettait tout simplement de changer les armes et d'acquérir des pouvoirs supplémentaires, des pouvoirs magiques qui permettaient de pouvoir faire d'autres choses, d'arriver ailleurs. Là, on a un personnage qui s'appelle Pepe Logo, que vous connaissez déjà, notamment grâce à Monster Boy, qui va vous ouvrir vers des mécaniques, mais elles sont au mieux sous-exploitées. Et vraiment, il y a même des choses qui sont très pénibles avec lui. Par exemple, vous voulez faire un double saut, il faut le rappeler à vous. Sauf que pour le rappeler, vous sifflez avec le bouton, avec la gâchette. Il faut le temps qu'il revienne. Donc en fait, quand vous faites un double saut, vous le lâchez, il faut le rappeler pour refaire un double saut. Il ne reste pas accroché à vous. Et ça, c'est ultra pénible de faire un truc comme ça. Je dirais même que c'est une faute qui est limite impardonnable. Et il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas très bien et qui font dire que le jeu, déjà à l'origine, il n'était pas forcément extraordinaire. Il a vraiment, mais extrêmement mal vieilli, surtout avec cette nouvelle apparence. Thomas.
Oui, je vais poser une question un peu toute bête, mais tu parles du fait que le level design ait été étiré quelque part pour profiter du scrolling, mais est-ce qu'ils ont pensé du coup pour compenser à peut-être accélérer le rythme modifier, tu vois, quelques réglages dans le game design, parce que simplement étirer ton décor comme ça, enfin, je suis pas game designer, mais ça paraît être une très mauvaise idée si tu n'adaptes pas le reste.
Ah non, c'est exactement, enfin, c'est un problème qu'on retrouve, qu'on a retrouvé avec d'autres styles de jeux qui voulaient absolument passer en 3D. Je pense en particulier aux Castlevania, quand ils sont passés en 3D, les développeurs se sont dit, tiens, on va faire la même structure que pour les jeux 2D, mais sans réfléchir à ce rapport d'échelle, tout simplement. C'est-à-dire que faire les couloirs d'un Symphony of the Night en 3D et en gardant les mêmes proportions, ça donne des trucs vides dans lesquels on va marcher énormément et on va rencontrer 4 monstres. On aura l'impression qu'il n'y a que 4 monstres pour un espace qui est 10 fois trop grand. Ben, c'est exactement la même chose là. Voilà, on se retrouve avec ça et des phases de plateforme qui sont principalement sans aucun génie. Il n'y a vraiment aucun moment où on se dit que c'est plaisant. Les boss manquent, mais alors complètement d'épique. Les patterns sont ultra faciles à trouver. Et même si tu ne trouves pas les patterns, honnêtement, tu leur donnes. Enfin, tu restes en place. Il suffit que tu aies récupéré l'amulette qui te permet, enfin le bracelet qui te permet d'avoir plein de cœurs assez vite. Et tu les torches sans avoir même besoin de bouger. Ce qui est quand même affreux quand tu y penses, parce que c'est un jeu qui devrait te motiver justement à essayer de trouver. À rester vigilant, à essayer de faire attention. Tu n'as même pas besoin, en fait. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a du charme, il y a le visuel, comme je le disais, donc c'est Achat in Monster World, enfin le jeu d'origine, c'est celui qui a inspiré l'univers de Shantae, un peu mille et une nuits oriental, et ça marche très très bien. Il est très agréable, les rencontres que vous allez faire dans le jeu, les différents moments où vous allez croiser d'autres personnages, c'est très mignon, vraiment. Ça se prête bien au truc. Après, moi, il y a juste l'animation de l'ouverture de coffre qui est obligatoire, qui au bout d'un moment me tapait un peu sur le système parce que, c'est long déjà pour commencer. Et la voir dandiner du cul comme ça à chaque fois, normalement, ça, voilà, on a compris la première fois, merci. On peut passer à autre chose. C'est vraiment charmant, les musiques elles sont très bien, encore une fois la BO est de très bonne facture, il y a des choses qui restent facilement en tête, les différents environnements sont agréables à parcourir même s'ils ne sont pas très détaillés, mais très honnêtement le vrai problème de ce jeu c'est que le jeu d'origine n'était pas génial à la base et qu'on est peut-être content d'avoir un jeu refait. Mais au final, le résultat, il n'est pas exceptionnel. Et c'est dommage de ne pas avoir totalement repensé le jeu qui en avait besoin, contrairement à Dragon's Trap ou Wonder Boy 4. S'il était refait aujourd'hui, je pense que ça se passerait bien aussi. Parce qu'il y avait, une structure et des choses qui correspondaient bien. Mais bon. Celui-là n'a pas été retouché. Ils ont préféré se mettre sur Wonder Boy Asha in Monster World avec une espèce de promesse peut-être qu'un autre épisode de Wonder Boy pourrait arriver par la suite puisque la fin est un peu ambiguë. Donc du coup, on peut imaginer que peut-être que Nishizawa a envie de continuer, a envie de retourner sur Wonder Boy et d'en faire d'autres. Mais bon, je ne sais pas.
Tu ne les conseilles pas a priori.
Bah, en tout cas, je ne conseille pas de faire avec cette formule-là parce que ça marche pas. Il faut reprendre le truc un peu entre guillemets Metroidvania pour que il y ait une vraie satisfaction dans le jeu ou alors un jeu d'action et de plateforme qui soit beaucoup plus péchu et avec de vraies idées à l'intérieur et quelque chose qui va nous faire ressentir, enfin qui va nous procurer des sensations tout simplement. Et là, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas du tout.
La preuve, c'est qu'ils l'ont très bien fait dans The Dragon's Trap, même si ce n'est pas la même équipe. On voit bien qu'on peut adapter des mécaniques et faire un jeu formidable.
Mais surtout, Dragon's Trap n'a pas besoin d'être adapté. Dragon's Trap, à l'origine, rien qu'avec le système de changement d'animal, déjà rien que ça, ça suffit à apporter la profondeur qu'il faut au jeu, même s'il se finit vite. Tu as déjà quelque chose de rafraîchissant rien qu'avec ça. Et là, il n'y a rien de plus, malheureusement.
Je précise pour ceux qui voudraient comparer les deux que si vous achetez la version physique d'Asha in Monster World, vous avez aussi l'original Mega Drive disponible si vraiment vous l'aviez loupé ou que vous voulez vous faire une idée. Préférez peut-être la version physique si vous voulez tenter le coup.
Ouais, et encore, préférez la version physique, mais enfin, préférez pas le jeu. Moi, je lui ai mis 5, j'estime qu'il est moyen, mais un jeu comme ça qui est vendu aussi. On va dire de façon aussi aride parce qu'il n'y a pas de bonus. Hein. Vous savez pas avoir dans le jeu de moyens de découvrir comment a été fait le jeu, d'artwork ou autre. Non, c'est juste le jeu, vous le finissez, on n'en parle plus. Et bon, ça fait très très léger, je trouve. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas non plus les moyens de faire quelque chose d'autre, hein, mais ça fait vraiment beaucoup trop léger pour pouvoir le conseiller. Voilà, c'est triste. Hein. C'est triste, mais j'espère que si d'autres se veulent retoucher à Wonder Boy, ils sauront se pencher sur les bons aspects de la série et pas juste refaire le même, mais en moins bien. Tout simplement.
Et pan.
Et pan, exactement. Bon, bref, on va passer au thème numéro 3. Thomas, on va te laisser parler un peu, puisque tu vas nous expliquer ton petit aperçu de Final Fantasy VII Remake Integrated, donc la version améliorée PS5 qui sort, bah, mine de rien, dans 9 jours.
Oui, pour tout à fait.
On enregistre.
Le 10 juin.
Et ouais, le 10 juin. Donc, sauf que toi, tu as vu le passage qui est consacré à Yuffie.
Tout à fait. Alors, tu fais bien de le préciser, on l'a vu. Hein, on ne l'a pas pris en main. On a seulement pu découvrir une vidéo de gameplay, donc une preview d'un DLC. C'est comme ça. On a évidemment hâte de pouvoir poser nos paluches dessus. Mais on va commencer par rappeler l'évidence, c'est que bah, du coup, c'est très joli. Hein, ça tourne sur PS5. Donc, le jeu de base profitait quand même, mis à part ces quelques PNG qui ont fait couler beaucoup d'encre numérique, d'une direction artistique qui était quand même assez sympa. Et évidemment, là, ça continue. Surtout que bah, Yuffie profite d'un chara-design qui lui sied quand même vraiment très bien, je trouve, qui est vraiment bien adapté au personnage et à sa personnalité. Et du coup, on a pu voir eh bien, le début, en tout cas, le premier chapitre, c'est l'épisode Intermission va être a priori découpé en deux. On a vu plutôt le début de l'aventure quand Yuffie arrive, chantonne son thème. Là, pour le coup, je vous dis d'avance, il y a un nombre de reprises du thème de Yuffie, Descendant of Shinobi, qui est incroyable. On l'a eu à toutes les sauces. Ah, ouais, ouais, ah, y en a plein, jusqu'à la valse à trois temps. Enfin, c'est une fois de plus très osé. Après, il faut bien vendre des OST, tu sais, ce qui vont ressortir l'OST d'FF7 Remake Part 1, donc il fallait donner un peu du grain à moudre. Mais du coup, on voit tout de suite que bah, même si on redécouvre les hangars, le chemin est quand même un petit peu différent. Et puis surtout, Yuffie permet, comme l'épisode original, d'enrichir un petit peu le propos, le sous-texte et l'univers finalement de Final Fantasy VII, parce que, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la fille du chef du clan Wutai, qui du coup vient à Midgar pour dérober l'une des matérias de la Shinra. Et bah, elle a du coup le point de vue de quelqu'un qui n'a entendu parler de Midgar qu'à l'extérieur, donc qui a juste entendu, on va dire, la propagande officielle, et qui découvre l'envers du décor. Donc elle se permet tout un tas de réflexions sur les bas-fonds, puisqu'on revient à un moment donné dans le secteur 7, et on aperçoit évidemment quelques personnages, il y a Biggs, je crois, qui est en fond, ce qui nous rappelle que eh bien, tout ça se déroule en parallèle des aventures de Cloud, Tifa et Barrett, et Aerith, évidemment, dans l'histoire principale. Et bon, bah, ça marche bien. Alors, la petite spécificité de Yuffie dans les phases d'exploration, c'est qu'elle a évidemment son gros kunai, qu'elle peut utiliser pour aller briser des caisses et récupérer des items. Voilà, c'est la variante de l'épée de Cloud, en l'occurrence, mais ça permet de ne pas forcément se déplacer. Elle virevolte, elle est évidemment beaucoup plus agile, elle grimpe, elle s'accroche, elle court sur tout un tas de parois, et tout ça se retrouve aussi en combat, puisqu'on va d'abord commencer par la manier toute seule, mais bah, on peut justement gérer le corps à corps et la distance grâce au kunai, mais aussi aux arts martiaux, puisque très clairement, cette version FF7 Remake renforce le caractère un petit peu japonisant du personnage. On a vraiment quelque chose de très marqué à ce niveau-là, qui fonctionne vraiment très bien, elle et puis son compagnon, enfin son acolyte Sonon aussi. Et ce qui marche bien, c'est que Yuffie, elle peut changer aussi son type de ninjutsu, donc choisir entre des attaques de base, mais l'électricité, le feu, ce genre de choses.
Qui fait qu'il y a pas plus... On rappelle, il n'y a pas plusieurs personnages à diriger, contrairement à Final Fantasy VII Remake. Il y a voilà. Que Yuffie et avec une aide, donc son copain ninja qui lui apporte de l'aide, mais on ne le dirige pas.
Voilà, Sonon arrive après, puisqu'on a vu qu'il y avait d'abord des combats où elle était toute seule, mais du fait qu'elle puisse changer justement son approche élémentaire, ben, on se dit qu'a priori, on ne va pas forcément y perdre beaucoup au change, parce que ce seul personnage, Yuffie, gère donc le corps à corps, au moins la mi-distance, et des attaques assez variées. Donc, j'ai pas eu l'impression d'un retour en arrière, en fait, après avoir dirigé un trio. On s'est habitué quand même à tout un tas de mécaniques et de complémentarité. Bah, là, son spectre est assez large et du coup, ça marche plutôt bien. Sachant qu'en plus, effectivement, quand Sonon la rejoint, certes, on ne le dirige pas, mais si on laisse les barres d'ATB des deux personnages se charger, on débloque la synergie. Ce qui va permettre, évidemment, de mêler des attaques à la Chrono Trigger. Hein. Les deux personnages cumulent finalement des attaques. La première qu'on a pu voir, Sonon agrippe Yuffie par le bras. bras, elle a fait tourbillonner sur elle-même, du coup ça crée une petite tornade. Non seulement elle distribue des coups, mais en plus il y a une tornade qui se crée à un endroit donné, donc ça peut faire des dégâts de zone. Du coup ça a l'air assez intéressant, une approche un petit peu nouvelle du système de combat, alors même si on a vu globalement que des mobs assez, assez bidons, enfin assez basiques finalement dans les combats. Petit bémol aussi sur le boss qu'on a pu découvrir, qui ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à Scorpion Sentinel qu'on affrontait dans le premier réacteur Mako, avec vraiment le même type de mécanique, etc. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Mais en dehors de ça, vraiment, le jeu est très joli. On l'a vu en mode performance, hein. C'était du 4K et donc pas du 60 FPS, mais ça marchait quand même vraiment très bien. Pas une énorme prise de risque forcément, mais je pense que c'est un contenu à voir évidemment une fois qu'on l'aura manette en main, parce qu'on nous a aussi promis qu'il y aurait des apports haptiques au niveau de la DualSense. Ça, pour l'instant, ça n'est évidemment qu'une promesse, mais ça a l'air d'être un contenu quand même assez sympathique, avec aussi, eh bien, comme le jeu principal, a priori son petit lot de quêtes FedEx un petit peu dispensables, puisque là, vous n'allez pas chasser des chats, même s'ils auront un rôle à un moment donné dans l'intrigue, mais vous allez chercher des prospectus pour un homme tortue, un homme cosplayé en tortue. Bon, voilà, on espère évidemment qu'il n'y aura pas que ça et que l'intrigue va nous permettre de creuser un petit peu. On sait qu'on va découvrir des boss, retrouver des compagnons d'armes aussi, que tout ça devrait quand même, mine de rien, préparer un tout petit peu l'après. L'épisode 2, on ne sait pas comment il va s'appeler, mais que voilà, les connexions avec le Wutai vont se faire dans cet épisode Intermission et que ça permettra d'ouvrir sur l'après, qu'on espère découvrir quand même assez rapidement. Voilà, tout ça a été encourageant, sympathique. Moi, m'a donné envie de relancer le jeu en attendant qu'on reçoive justement cette version Intergrade sur PlayStation 5. Je pense que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Si vous aimez la série, son univers, vous serez sans doute déjà client. Et puis en plus, on a un nouveau personnage quand même à prendre en main. Voilà, ça devrait être très bon, pas forcément surprenant, mais à l'image de l'épisode principal, quelque chose qui va a priori ravir tous ceux qui attendent de pouvoir rejouer un petit peu différemment à Final Fantasy VII Remake. Et donc, tu l'as rappelé, mon cher Plume, la version Intergrade d'FF7 Remake arrivera le 10 juin prochain sur PlayStation 5. Et si vous avez obtenu le jeu, la version PS4 via le PlayStation Plus, eh bien, il faudra repasser à la caisse quoi qu'il arrive.
Très bien. Bon, eh ben écoute, merci Thomas pour ces impressions de Final Fantasy VII Remake Intergrade épisode Yuffie. Voilà, c'est comme ça que se termine le podcast 569 de la rédaction. Ainsi va l'actualité, ainsi vont toutes les présentations, les tests et les impressions que nous avons pu partager avec vous cette semaine. On devrait normalement se retrouver la semaine prochaine ou pas, parce que, encore une fois, nous sommes assez peu nombreux en ce moment, et il y a, comme qui dirait, un truc assez bizarre qui flotte dans l'air en ce moment, comme s'il y avait des événements genre Summer Game Fest, E3, et j'en passe, qui se déclenchaient tous en même temps et qui nous arrivaient tous dans la tronche. Donc, on ne vous garantit rien. Néanmoins, on vous remercie de votre fidélité une fois de plus par rapport à nos podcasts. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify et d'autres, que la vidéo est évidemment toujours disponible gratuitement dans la news de ce podcast. On va remercier aussi Johnny One, Thomas et Poufy, évidemment, à la Sono. Et on va vous dire tout simplement à bientôt. Ciao.
Ciao et gros bisous.